Donc André, tu peux venir, on va t'écouter.
Bonjour à tous. Alors ce matin, je suis là. Il y a quelque temps déjà, dans le conseil, on avait décidé que les responsables puissent témoigner un peu de leur vie pour que l'Église les connaisse aussi. Et c'est un peu dans ce sens que moi, j'ai décidé de le faire. Il y a déjà eu d'autres personnes avant moi. Il y a eu, je sais pas, Denis, il y a eu Dora aussi. Et voilà, moi, ce matin, j'ai envie de partager un petit peu mon vécu tout en me disant, mais qu'est-ce que j'ai à leur dire? Parce que voilà, c'est une vie tout à fait ordinaire. Mais en même temps, quand je réfléchis à tout mon témoignage, à ce que j'ai vécu, ça nous oblige un petit peu à revenir en arrière, à réfléchir, puis je réalise combien Dieu est fidèle. Et en fait, ce matin, tout le temps de louange qu'on a vécu, c'est un peu ce que je vais vous raconter, quoi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle André, j'ai 50 ans, je suis marié avec Marianne. Alors, c'est toujours un peu le quiz dans l'église. Qui c'est sa femme? Ils sont jamais ensemble assis, on sait pas qui c'est. Alors, ma femme, c'est celle qui d'habitude est devant avec sa guitare, mais pas ce matin, elle est cachée derrière. Voilà. On a 3 enfants, Jean-Marc, Esteban et Valentin. Aussi, on est déjà grands-parents depuis belle lurette, voilà, quoi. Donc, Mais j'aimerais revenir un petit peu sur le début de ma vie, mon enfance. Moi, j'ai vécu dans une famille où Jésus était toujours présent. Donc, en gros, on était 8. On était 5 garçons, mes parents et Jésus. C'était comme ça à la maison, c'était normal. Il n'y avait rien de spécial là-dedans, c'était normal. On a vécu dans ce milieu-là. Alors, j'ai 4 frères qui sont tous plus jeunes que moi. Il y avait de la vie chez nous. Il y avait... ça bougeait. On habitait une petite ferme. On était les 5 dans la même chambre bien longtemps. C'était les plus beaux moments en tant qu'enfant. C'était vraiment les moments où on faisait des trucs le soir avant de dormir. Mais c'était génial, quoi. C'est vrai, mes parents étaient très limités financièrement. On n'avait pas grand-chose. Mais en même temps, une telle richesse que... rien ne nous manquait, on avait vraiment tout. J'ai commencé l'école, j'allais à l'école à Renan, ça me faisait 3 quarts d'heure à pied, on devait traverser la forêt, et puis tout à l'heure, quand Rémi parlait de cette forêt avec ces monstres qui l'attendaient à la sortie, il y avait des fois où, en hiver, de nuit, j'aimais pas du tout passer cette forêt. Et il y avait vraiment cette lutte aussi, hein. On apprend à faire confiance à Dieu, même dans ces moments-là. Et puis, l'école du dimanche, c'était à La Cibourg. De ce temps-là, il y avait encore une église à La Cibourg, oui, une église méthodiste. Alors, c'était l'école du dimanche le matin très tôt. On avait notre heure d'école du dimanche. Puis ensuite, nos parents arrivaient et puis il y avait le culte. Donc, c'était un culte qui durait peut-être une heure et demie, je ne sais plus. Mais c'était un très long culte. C'était en allemand en plus, mais c'était long. On regardait les secondes passer avec mes frères, puis on disait, il doit encore tourner 60 fois, 59 fois. Voilà. Donc c'était un petit peu notre vie d'enfant, mais notre église d'attache, en fait, c'était l'église mennonite des Bulles. C'est là qu'on allait quand quelqu'un nous prenait, quand mon oncle venait nous chercher, et puis on allait là à l'église. Puis au fur et à mesure qu'on grandissait, on y était de plus en plus. Et c'est là aussi que j'ai suivi le cathé, c'est comme ça que ça se faisait. Les 2 dernières années scolaires, on vivait le cathé. À Pâques, plus ou moins à Pâques, c'était la fin du cathé. Et puis à Pentecôte, c'était les baptêmes. Et ça se passait comme ça, c'était une tradition. Et puis les baptêmes, ça se faisait dans l'église, c'était un baptême par aspersion, donc quelques gouttes d'eau sur la tête, je vous le dis parce qu'on va y venir plus tard. Et j'ai vécu ça d'une manière vraiment sincère, j'étais... dans mon cœur, c'était clair, je veux faire ce pas avec le Seigneur et j'y vais. De toute manière, tout le monde se faisait baptiser quasiment. À ce moment-là, celui qui ne le faisait pas était vraiment mal vu. Donc c'était une tradition qui était là. Ça a bien changé depuis, ça a bien changé. Mais c'était la réalité. Et puis il y a eu la période du groupe de jeunes où aussi on découvre, et j'ai découvert avec les autres jeunes qui étaient avec nous, d'autres façons de vivre la foi et notamment aussi d'autres façons de vivre la relation au Saint-Esprit. Et lors d'un week-end intergroupe de jeunes qu'on avait vécu à Vaumarcu, donc là où on était pour le mariage hier, plusieurs d'entre nous, dont moi, avons reçu le parler en langue. Donc on a aussi vécu ça ce matin, le parler en langue. On l'a reçu. Et puis on est retourné dans notre église, heureux d'avoir vécu quelque chose, en voulant partager ce qu'on avait vécu, mais ça n'a pas vraiment été compris. Du coup, ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est mis de côté et on l'a oublié. Voilà, on avance, Marianne arrive dans ma vie, ça devient un peu plus compliqué parce que jusque-là, tout va... Non, pas qu'elle est compliquée, mais quand on a deux personnes qui n'ont pas forcément toujours la même façon de vivre les choses, ben, il faut se mettre d'accord. Et puis, ben voilà, tout ne va plus de la même manière, on apprend à fonctionner ensemble. Et notamment aussi dans la vie d'église, c'est vrai que l'église des bulles à ce moment-là, c'était famille Amstutz, famille Geyser, famille Gerber, Hummel, puis voilà, ça s'arrêtait plus ou moins là. Il y avait quelques Augsbourgers perdus là au milieu, c'était nous. Et puis, c'était vraiment une église qui était très famille, ça allait beaucoup moins actuellement, mais qui était très famille, c'était, voilà, c'était vraiment ménonite de père en fils, et on reste dans ce milieu-là. Et c'était pas évident pour Marianne de venir faire sa place là au milieu, ce qui fait que finalement, on a changé d'église, on est parti à l'église libre, où on a pu vivre vraiment notre foi et grandir avec le Seigneur. Non pas que j'ai renié tout ce que j'ai vécu, parce que je crois que tout ce que j'ai reçu à l'église ménonite, ça a été vraiment une base solide. Et quelque chose qui m'a aidé à avancer, à grandir avec le Seigneur. Donc on s'est intégré dans cette vie de l'église libre. Pour moi, ça a été le début aussi d'un engagement plus concret. Déjà, on m'a très vite mis dans le conseil parce qu'il fallait un quota de personnes. Hein, c'est pas possible autrement parce que j'avais rien à dire là au milieu. Il y avait tellement de fortes têtes que voilà, j'étais là, mais voilà, je faisais partie du conseil. Et puis on m'a refilé la caisse. Tiens. Mais j'avais aussi à cœur de me lancer plus concrètement vraiment dans quelque chose pour servir le Seigneur et dans l'enseignement des enfants dans l'école du dimanche. Alors j'ai commencé les premières fois, j'avais une trouille, avec un moniteur qui était expérimenté, puis il fallait voilà, donner sa leçon à l'école du dimanche. Moi, j'étais totalement déstabilisé, je n'arrivais pas. Quoi. C'était vraiment quelque chose de trop lourd pour moi, trop difficile. C'est pas pour moi d'être en avance, c'était pas pour moi, beaucoup trop timide, non, ça va pas aller. Puis en même temps, il y avait quand même au fond de moi cette envie d'y arriver. Alors je me suis inscrit pour un week-end de formation pour moniteur d'école du dimanche. J'étais le seul de l'église à y aller, j'étais le seul de la région. On était perdu dans une maison isolée en Suisse allemande. J'étais seul dans une chambre. Je me disais, mais qu'est-ce que moi je vais faire ici? Déjà, une peine immense à créer des contacts, puis je suis là, seul, perdu au milieu des gens qui se connaissent tous. Je ne savais vraiment pas ce que je faisais là. Alors la meilleure solution, dans ces moments-là, c'est on se retire dans sa chambre tranquille. C'est là, c'est là qu'on est le mieux. Et puis j'ai ouvert ma Bible. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux vraiment que je fasse? J'ai ouvert ma Bible et puis je suis tombé sur Agée, le prophète Agée. Agée 2, versets 18 à 19. Je parlerai du contexte de ce livre juste tout à l'heure, mais juste ces deux versets. Où il a écrit, « Réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui. Dès le 24e jour du 9e mois, dès le jour de la fondation du temple de l'Éternel, réfléchissez-y attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès aujourd'hui, je bénirai. » Juste la fin, elle m'a tellement touché. Dès aujourd'hui, dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. C'était écrit comme ça dans la version que j'avais à ce moment-là. Là, c'était Dieu qui me parlait. Il me disait clairement, mais vas-y, tu n'y arrives pas, mais vas-y, tu verras. Et là, je suis rentré à la maison avec une toute autre vision de mon engagement, de ma façon de fonctionner, où j'ai réalisé que finalement, oui, c'est Dieu avant tout. C'est pas mes propres efforts, c'est pas mes propres capacités, mais c'est ma disposition devant Dieu. Est-ce que je suis prêt à le laisser agir en moi et au travers de moi? Ça a été un épisode, un tournant pour moi. Il y en a eu un deuxième dans notre famille aussi. où Marianne a vécu vraiment une restauration et où elle a reçu, elle aussi, elle a reçu le parler en langue. Donc, je ne vais pas parler de ce qu'elle a vécu, elle, si elle veut le partager, c'est elle qui vous le partagera. Mais elle a reçu le parler en langue. Puis moi, tout à coup, elle me dit, mais il faut que tu reçoives ce parler en langue, c'est tellement génial. Puis moi, je réponds, mais il y a longtemps que je l'ai. Il y a longtemps que je l'ai reçu. Et c'est quelque chose qui s'est réveillé en moi à ce moment-là de nouveau et qu'on a pu commencer à vivre, qu'on a pu commencer à développer. Et j'ai vraiment à cœur de vous partager ça parce que parfois le Seigneur nous donne des choses, nous donne quelque chose au fond de nous, puis gentiment on l'oublie. Mais ce qui est semé là est semé. Ce qui est semé est semé. Et puis il y a un moment où si on dit au Seigneur, ok, je suis d'accord que tu peux faire grandir en moi ce que tu as semé, il le fait. Mais ce qui a été semé est là, il est là. Et les promesses qu'il a posées sur nos vies, elles sont réelles. Elles sont vraiment réelles. Et il veut qu'elles se développent. Il veut qu'elles grandissent en nous. Donc on a grandi vraiment avec le Seigneur. On a vécu des choses merveilleuses avec lui. On a vécu cette nouvelle dimension de notre relation avec Dieu. Puis au sein de l'Église libre, à ce moment-là, il y a eu une scission. Il y a eu une scission, et puis il y a eu le démarrage d'une nouvelle Église qui était l'Église de l'Espérance. C'est une expérience qu'on a vécue qui a duré environ 7 ans. Ça pourrait être pris un peu comme un échec, mais pour moi, pour nous, c'est plus une véritable école de formation qu'on a vécue. Donc dès le début de cette nouvelle église, j'ai été placé dans l'équipe des responsables aussi. Mais au fur et à mesure que l'église avançait, les responsables les plus influents, ils quittaient gentiment le navire, les uns après les autres. Ça devenait quelque part de plus en plus sur mon épaule de gérer les choses. Et en même temps, on a démarré des programmes pour les enfants, ça s'appelait l'Oasis à ce moment-là. On a démarré un groupe de jeunes qui était le Repère. Et on voyait le Seigneur agir dans ces deux domaines de l'enfance. Puis en même temps, on avait le poids de la vie de l'Église à gérer. De ce temps-là, j'étais encore indépendant, donc c'était facile. André, il a le temps. André, il a le temps parce que de toute façon, il peut gérer son temps comme il veut. Donc je prenais beaucoup de temps pour l'Église à ce moment-là. Et ça s'est ressenti aussi sur notre situation financière à un moment donné. Mais c'est aussi dans ces moments-là qu'on a vécu les miracles. Des miracles financiers clairs, j'entends, où on ne savait plus comment faire, comment joindre les deux bouts. Et Dieu nous amenait ce qu'il fallait. On avait tout à coup une enveloppe, quelque chose qui venait en avant quelque part. Toujours ce dont on avait besoin. Alors cette vie d'église, elle devient de plus en plus difficile à assumer. Puis finalement, elle va s'arrêter. Mais tout notre engagement avec les jeunes, donc il n'y a pas que nous, il y a toute une équipe avec nous, il continue et il devient de plus en plus étonnant parce que on a des jeunes d'un peu partout qui atterrissent dans ce groupe de jeunes et on vit des choses tellement merveilleuses. On voit le Seigneur agir dans les vies, on voit des jeunes qui sont restaurés, des jeunes qui sont transformés et on vit des baptêmes. Voilà les baptêmes, on y arrive. On vit des baptêmes. Une fois en tout cas, on avait 6-7 jeunes, je ne sais plus combien, on était à la piscine de la famille Allenbach, on joue derrière. Une piscine bien connue pour les baptêmes, hein, ça c'est la piscine des baptêmes de la région. Et on a vécu ces baptêmes-là, c'était un moment tellement génial aussi. Mais en parlant de baptême, bien sûr, je repense à mon baptême, comment moi je l'ai vécu, et ça n'a jamais été un problème pour moi jusque-là. Et un jour, une amie me dit, elle me pose un peu la question qui fait s'écrouler tout mon raisonnement. Comment veux-tu être crédible dans l'enseignement du baptême par immersion si toi-même tu ne l'as pas vécu? Et là, c'est de nouveau une fois où Dieu me parle, où j'entends vraiment Dieu me dire, mais là, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors, j'ai écrit tout ça, puis Marianne, hier soir, quand elle voit ça, elle me dit, mais moi, je l'avais dit 15 000 fois avant, mais c'est vrai. Il y a un temps où le Seigneur nous parle. On peut avoir les conseils des gens, mais il y a un temps où le Seigneur veut nous parler. Alors, suite à ça, j'ai vécu le baptême par immersion dans le lac Neuchâtel. D'ailleurs, en même temps que le mari de mon ami là, qui avait vécu le même parcours que moi un petit peu au Bulle. On a vécu ce baptême. Et je crois que c'est ces actes d'obéissance, ces moments-là qui sont importants dans nos vies, quand Dieu nous parle, si est-ce qu'on veut obéir ou pas. Dieu, les gens peuvent nous dire plein de choses, mais est-ce qu'on est prêt à écouter Dieu, ce que lui veut nous dire? Et quand il nous parle, c'est le moment. Alors, avec la fin de l'aventure de l'Église de l'Espérance, c'est ici qu'on est arrivé avec Marianne, avec nos enfants. C'est ici qu'on a continué de vivre cette aventure depuis bien des années, quand même déjà. Je ne sais plus, une dizaine d'années environ. Environ 10 ans. Quand on est arrivé ici, c'était vraiment un lieu, un lieu de repos, où on pouvait se poser. Il y a d'autres qui l'ont vécu apparemment. C'était un lieu où on a pu se ressourcer, un lieu où on a pu recevoir ce qu'on avait besoin à ce moment-là, mais aussi un lieu où on a pu continuer d'exercer ce qu'on avait à cœur. J'ai continué avec la jeunesse, avec l'enfance. Marianne a continué dans la louange, elle s'est développée là-dedans. Donc c'est vrai, on a pu trouver notre place dans ce lieu. Et c'est vrai que tout ce témoignage, finalement, quand j'y ai pensé, quand j'y ai réfléchi, j'ai vraiment vu la fidélité de Dieu. Quand il y a besoin de quelque chose, il est là. Mais quand il n'y a pas besoin, il est là aussi. Il est toujours là. C'est vrai que j'ai jamais eu un témoignage percutant à partager, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a certaines personnes qui ont tellement un témoignage merveilleux, puis on va pour l'écouter au moins. Mais voilà mon témoignage, qu'est-ce que c'est? Mais finalement, de vivre dans une famille chrétienne, de grandir dans une famille chrétienne, d'être gardé de bien des choses, qu'est-ce que c'est pour une bénédiction? Ça, on le réalise plus tard, mais c'est une bénédiction. Alors, je ne suis peut-être plus la personne timide, craintive que j'étais au début, que j'étais dans ma jeunesse, mais c'est vrai que je suis toujours quelqu'un de réservé, quelqu'un qui est discret et qui s'adapte facilement au milieu dans lequel il est, ça c'est vrai. Mais je sais, et je sais quel Dieu je sers aujourd'hui, et je sais quel Dieu j'ai en moi. Et aussi tout ce qu'on a pu vivre tout à l'heure, ce qu'on a pu partager, ce qui a été partagé tout à l'heure dans le temps de louange, c'est vraiment cette réalité. Je sais qui je sers. Dieu vit en moi. Et c'est lui finalement qui doit prendre de plus en plus cette place. Et je crois, on peut être plusieurs dans ce lieu aujourd'hui à se dire, mais moi je suis quelqu'un qui n'est pas un charisme bien fort, qui n'est pas une personnalité marquante, qui se démarque des autres. Mais on a notre place dans le royaume de Dieu, on a notre place sur cette terre, on a notre place dans cette église. Et on ne peut pas se cacher derrière ce rideau-là que j'y arrive pas, que de toute façon je suis trop faible, que je ne suis pas assez bon, que je ne suis pas assez ci ou ça. On ne peut plus se cacher là derrière. Parce que notre Dieu est bien au-dessus de ça. Alors, ce n'est pas parce que je suis engagé avec Dieu, parce que j'ai l'impression d'être tranquille, qu'il n'y a pas des défis dans ma vie, qu'il n'y a pas des difficultés, qu'il n'y a pas des moments où on doit se battre. Aujourd'hui encore, il y a des combats, des fois, dans lesquels on a l'impression que, humainement, il n'y a rien qui changera. Et pourtant, dans ces moments-là, Dieu met une balance devant nous. D'un côté, il y a la réalité toute réelle, entre guillemets. Ben oui, c'est comme ça. Ça se passe comme ça aujourd'hui. Et puis, ça peut être des années que ça dure. D'un côté, il y a ça. Et d'autre côté, il y a la promesse que Dieu nous donne. Les promesses que Dieu m'a données bien clairement aussi, par rapport à une situation bien précise. La balance, elle est équilibrée. Et le côté que je choisirai, c'est le côté duquel penchera la balance. Est-ce que je veux faire confiance aux promesses de Dieu? Et moi, c'est ce que je veux. C'est ce que je décide, c'est de faire confiance aux promesses de Dieu. Je sais, aujourd'hui, humainement, on voit des choses difficiles, mais je sais que Dieu agit et que Dieu va changer les choses. Il est en train de les changer. Parce qu'il est fidèle en ses promesses. Alors, juste pour terminer, j'aimerais juste ouais, m'adresser aux personnes qui se sentent incapables de vivre le rêve que Dieu a placé en elles. Parce qu'elles peuvent être paralysées par la peur, par la crainte, par le doute. Ou bien parce qu'on se dit peut-être, mais je suis passé totalement à côté des plans que Dieu avait pour ma vie. J'ai tout foiré, j'ai tout raté. Agée, quand il donne ce texte, il parle à un peuple qui revient d'exil. Et quand ce peuple revient d'exil, il s'occupe d'abord déjà de tous ses petits problèmes. Il veut reconstruire, chacun veut reconstruire sa maison et chacun veut, à juste titre quelque part, hein, veut faire qu'il soit bien. Et puis à un moment donné, Dieu dit, mais oh, je suis là, vous m'avez oublié. La priorité, c'est moi d'abord. Je veux que ce soit moi d'abord. Vous m'avez totalement oublié. Et puis, en m'oubliant, ben vous avez oublié tout ce que j'apporte quand je suis présent au milieu de vous. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus rien eu à manger. Tout est détruit, tout est dévasté. Vous n'avez pas ce qu'il vous faut. Mais parce que vous ne m'avez pas mis en premier. J'aimerais juste vous relire les deux versets que j'ai lus tout à l'heure, en les modifiant peut-être un petit peu au niveau de certaines choses, mais réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, dès le moment où tu décides de changer, de dire « Ok Seigneur, je capitule, je te laisse agir dans ma vie. » Dès aujourd'hui, là c'est dès le 24e jour du 9e mois, j'ai envie de dire dès le 30e jour du 9e mois, hein, on est le 30 septembre aujourd'hui, dès le jour de la fondation du temple de l'Éternel, justement dès le jour où je décide de placer ma vie sur ce rocher, Dieu et sur lui seulement, réfléchissez-y attentivement. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'y es pas arrivé. Jusqu'à aujourd'hui, tout est défaite, tout est raté, tu n'arrives à rien. Mais dès aujourd'hui, je bénirai. Dès le moment où tu décides de te placer sous l'autorité de Jésus, de lui dire, ok, moi je capitule, c'est toi qui agis. Je bénirai, dès aujourd'hui. Est-ce qu'on veut ressortir avec la bénédiction de Dieu de ce lieu aujourd'hui? C'est vraiment la question que j'ai envie de nous poser à tous. Est-ce qu'on veut ressortir avec sa bénédiction? Je vous laisse avec cette question. Amen.
Merci André. Dieu nous aide à dépasser nos limites. Dieu, c'est l'illimité qui rentre dans ce qui est limité en nous et qui nous fait dépasser nos limites. Alors, il ne s'agit pas d'essayer de dépasser nos limites sans Dieu, mais avec Dieu. Amen. Merci pour ce témoignage de la fidélité de Dieu. Hein, vraiment, il est là et puis, voilà, il y a des... On réalise pas comment on est gardé, on réalise pas comment on est protégé, on réalise pas la grâce de Dieu qui assure nos vies.
Alors je vais juste raconter un petit peu, pas très longtemps, mais juste la suite un petit peu de ce qu'il a dit quand j'ai reçu le parler en langue. Je vais pas faire aussi long que lui. Je vais à l'arrache parce que j'ai rien préparé. Quand on s'est marié, ça a été extrêmement difficile, c'est vrai. Il a dit c'est une nuit compliquée, mais vraiment c'était vraiment difficile. On crochait sans arrêt, on était tout le temps confrontés l'un à l'autre. Et puis j'avais vraiment de la colère et puis beaucoup de choses qui n'étaient pas guéries d'avant, qui ont vraiment mis notre couple à rude épreuve. Donc c'était vraiment difficile. Et puis en même temps, je faisais des grosses crises de colère, à tout fracasser. Je voyais rouge, puis je tapais dedans, hein, c'était comme ça. J'étais en dépression, enfin ça allait pas du tout. Et puis quand on a commencé d'aller à l'église libre, je me suis sentie bien, j'ai trouvé plein de monde sympa, il y avait de la bonne musique, c'était ça. Et petit à petit, le Seigneur a commencé à me dire enfin des choses qui allaient pas, enfin je comprenais, j'ai commencé de m'accrocher à Dieu un peu plus. Et un soir, on avait un orateur à l'église. Et puis il a commencé de parler, je sais pas de tout quoi. Et il rayonnait ce gars, et il avait quelque chose de tellement fort. Et j'ai dit, mais machin, il y a quelque chose que j'ai pas. Et après, à la fin, il a demandé qu'on puisse aller prier, ceux qui voulaient prier. Moi, je voulais pas. Et puis j'ai Christiane, oui, qui était avec nous à l'époque, qui me dit, tu viens, on y va. Et puis j'ai dit, non, je ne veux pas aller. Elle m'a pris par la main et elle m'a amenée devant. Et j'étais là devant le gars, puis j'ai dit, écoutez, bon ben, vous avez quelque chose en vous que j'ai pas et que j'aimerais avoir. Et il a dit, ok. Je savais pas ce que c'était. Et il a commencé à prier pour moi. Et puis, rien qui se passait. C'était toujours... Il a parlé de murs de Jéricho, je sais pas quoi, qui s'effondrent. Il a prié. Et tout à coup, j'ai senti une chaleur qui est descendue depuis ma tête jusqu'ici, juste dans mon cœur. Et quand c'est arrivé au niveau du cœur, ça fait tac. J'entends presque le bruit. C'est comme une poche des eaux qui se rompt quand on est ensemble. Tac, ça fait... Et puis, quelque chose est parti. Un énorme poids est parti. Et j'ai rien compris. Et j'ai commencé à prier en langue. Et j'ai commencé à... J'étais collée au plafond. Je savais plus. Il disait, il y a ton visage qui a changé. Les gens vont voir que t'as changé et tout ça. Je savais même pas ce qui m'arrivait. Je n'avais jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit. Et depuis là, ça a tourné. Ça a tourné. La colère, elle a totalement disparu. J'arrivais plus à me mettre en colère. La dépression a disparu totalement en même temps que ça. On ne me reconnaissait plus et j'ai commencé à avancer avec Dieu. Et pendant 3 semaines, je vous dis, hein, franchement, j'étais collée au plafond, j'arrivais plus à redescendre. Je ne comprenais rien ce qui m'arrivait. Jusqu'au jour où un gars m'a dit, mais t'as reçu le baptême du Saint-Esprit. Et c'est là que j'ai dit à André, mais il y a quelque chose de tellement puissant là-dedans. Ben, je l'ai déjà depuis je ne sais pas combien de temps. Ben, j'étais presque... Non, mais pourquoi t'as pas dit avant? Et ça a changé notre famille, notre vie de couple, notre famille. Et nos 2 enfants, Esteban et Valentin, ont vu le changement en nous. Enfin, ils ont tous vu. Et Valentin et Esteban, un soir, ils ont dit, mais maman, on veut aussi ça. Et avec les deux, enfin, ça s'est fait quelques temps. On a pu prier avec eux et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, les deux. Et Valentin, il avait 6 ans. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit à 6 ans. Et Esteban a aussi reçu. Et ça a vraiment transformé notre famille. Voilà.
Merci Marianne.